Compte complet présente des entretiens avec des personnalités reliées au baseball. Dans cet épisode, Alain Huzureau s'entretient avec un historien des carnavals de Québec, Daniel Papillon.
L'histoire du baseball à Québec est riche. C'est plus de centenaires. En fait, ça se compare à n'importe quelle ville nord-américaine. Pendant une période de 71 à 1977, Québec a été la ville qui a accueilli la filiale 2A des Expos de Montréal. Se sont appelés les carnavals par la suite, les métros. Et Québec continue d'être sur la scène professionnelle avec les capitales depuis une vingtaine d'années avec énormément de succès. On va parler à celui qui a contribué à l'espèce de musique à l'intérieur du stade où évolue le Stade de Québec. Daniel Papillon, merci d'être avec nous, Daniel, et de pouvoir partager ton expertise. On va commencer un petit peu par...
Merci de ton invitation, Alain.
Oui, on va commencer par un petit mot sur... le baseball à Québec. Quand on dit qu'il y a une riche histoire, là, c'est plus de centenaires. Là. Bon, tu es capable de nous résumer ça. Évidemment, tu nous résumes 100 ans, c'est beaucoup. Mais comment c'est dessiné un petit peu l'histoire professionnelle du baseball?
Professionnel, c'est 1923. Mais avant ça, on jouait déjà au baseball à Québec, puis on jouait au baseball ailleurs au Québec aussi. Et je suppose, parce que là, j'ai pas de preuves... Je continue à faire la recherche, là, mais je n'ai pas de preuve exacte. Il y a des joueurs américains qui venaient jouer ici dans les années 10, là, dans des ligues plutôt très locales. Mais s'il y a des joueurs américains qui venaient jouer ici, je suppose que ceux-là, au moins, en tout cas, étaient payés. Là. Donc, est-ce que c'est du baseball professionnel? Pas pour tous les joueurs, là, mais ça, on retrouve ça dans l'histoire du baseball au Québec, de toute façon, où, au fil des ans, là, des joueurs étrangers vont venir jouer. Puis évidemment, ceux-là, assurément, ils vont être payés, là. Donc, mais la vraie première ligue professionnelle, c'est celle qui s'appelle Eastern Canada, qui est en 1923, en tout cas pour Québec. Et là, c'est le niveau de baseball le plus élevé qu'on aurait eu dans notre histoire. 1923-1924, on change de nom là dans les deux ligues. 1924, ça va être Québec-Ontario-Vermont. Mais là, c'est la classe B et qu'on trouve plus, qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'est ce qui est de plus élevé dans notre histoire à Québec. Et on va s'appeler, ça aussi, là, les surnoms d'équipe sont pas si importants à l'époque. On s'appellerait les Bulldogs là, si on lit certains livres, mais dans les journaux, on parle toujours de Québec. Québec qui rencontre Trois-Rivières, qui rencontre Montréal, qui rencontre Burlington, là, dans le cas de Québec-Ontario-Vermont. Bon. Et là, il y aura un trou après 1924. Anecdote intéressante, par exemple, pour 1924, il y a un match des Ligues majeures qui va avoir, deux matchs des Ligues majeures qui vont avoir lieu à Québec. Évidemment, c'est des parties hors concours, là, c'est pas des parties régulières. Les White Sox de Chicago vont jouer contre les Giants de New York. Ils vont jouer à Montréal d'abord, deux parties, et parce qu'ils s'en vont faire une tournée en Europe, une tournée de promotion du baseball, comme il y a déjà eu auparavant. Là. Et on prend le bateau à Québec, c'est simplement pour ça, on va prendre le bateau à Québec pour s'en aller en Europe. Donc, deux matchs à Montréal, deux matchs à Québec par la suite. On va jouer sur la 3e avenue à Québec, pour ceux qui connaissent, c'est Animoilou. C'est le premier stade de baseball qui va être construit à Québec. Parce qu'avant ça, où on va jouer au baseball, c'est des terrains, c'est pas des stades de baseball. Donc, les White Sox en octobre et les Giants en octobre 1924 vont jouer deux parties à Québec. Ça, c'est une anecdote cocasse. Il y a plus de 4000 spectateurs là, qui viennent à une des deux parties. Parce que là, il n'y a pas Internet à ce moment-là. La deuxième partie, c'est parce que le succès de la première amène la deuxième partie. Mais la publicité, le lendemain, ne se fait pas aussi rapidement qu'aujourd'hui. Il y a moins de monde à la deuxième partie. Un trou par la suite dans le baseball professionnel, mais du baseball local qui semble intéressant. Là, local étant autour de la ville de Québec, jusqu'en 1938, où là, on va devenir membre de la Ligue provinciale et que on va construire aussi à Québec le stade qu'on appelle à ce moment-là le stade municipal, qui aujourd'hui porte le nom de stade Canac. Là. Et là, c'est le début d'une longue série d'équipes professionnelles à Québec, là, commencé par les Athlétiques de Québec, suivi par les Alouettes de Québec, après la guerre, il y a une pause pour la guerre comme un peu partout dans les ligues mineures en Amérique du Nord. Après la guerre, c'est les Alouettes. Ensuite, les Braves de Québec. Les Indiens de Québec, ça, c'est plus compliqué. Ce qui nous amène au carnaval métro. Et évidemment, après une pause de 22 ans, les Capitales qui font leur apparition à Québec.
Oui. Daniel, bon, même dans ces trous, comme tu dis, le baseball est resté populaire, très couvert là, par les médias de l'époque et tout ça. Les Indiens de Québec, ça, c'est la fin de la Ligue provinciale, ouverte entre 68 et 70 principalement. La Ligue provinciale cesse ses activités après l'année 70, qui correspond à l'arrivée en 71 des carnavals de Québec. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu là, les circonstances de l'arrivée des carnavals dans la ville de Québec? Oui, il y avait une volonté des expos d'avoir une présence canadienne. Ça, il faut quand même le dire.
Oui, assurément qu'il y avait une volonté des expos, mais il y avait déjà une volonté de Québec parce que le personnage important dans cette histoire-là, je pense, en tout cas selon mes recherches, c'est Hugues Beaudoin. Hugues Beaudoin, qui était le propriétaire des Indiens de Québec, cherchait déjà à aller dans le baseball affilié. Et avec, notamment, on retrouve, en tout cas dans les journaux, les Mets de New York, entre autres. Mais ça, on est en 68, donc ça précède l'arrivée des expos. Et ça n'a pas fonctionné, évidemment, avec les Mets de New York. Là. Mais comme les expos arrivent en 69, la Ligue provinciale en arrache un peu aussi à ce moment-là, là, parce que la présence québécoise, quand tu dis la Ligue ouverte provinciale, bien c'est ça, c'est que la présence des Américains et des Daltinos devient très importante et on s'identifie peut-être moins au Québec avec les joueurs. C'est-à-dire que c'est assez populaire dans certaines villes, notamment Québec, la présence québécoise, là, à Québec entre autres, il n'y a plus de Québécois sur l'équipe là, des Indiens de Québec. Mm-hmm. Donc, l'arrivée des expos, c'était naturel, je pense, qu'on cogne la porte des expos. Et évidemment, c'est vice-versa, là, il y a un intérêt il y a un intérêt, je pense, tu le sais peut-être mieux que moi aussi, à condition qu'il y ait une autre équipe aussi, là, parce qu'on s'en vient pas tout seul dans la Ligue Eastern, dans le nord-est, en tout cas, on est déjà dans le nord-est des États-Unis, là, mais comme isolé, ça prend aussi un Trois-Rivières ou une autre ville au Québec assurer le succès. Et on va avoir évidemment Trois-Rivières, on aura aussi Sherbrooke, Dutcher Mines à un moment donné, là, mais c'est Hugues Beaudoin qui porte ça sur ses épaules, disons, et qui va investir possiblement d'argent.
Oui, sur l'arrivée de ce qui était à l'origine des carnavals de Québec. Sur le terrain, c'est quand même un succès cette première année. Des carnavals. Gus Triandos est le gérant de la formation. C'est son dernier emploi dans le monde du baseball. Ça s'est pas très bien passé sur le plan de la discipline avec Gus
Niehaus.
Niehaus.
Ouais, c'est ça. Triandos existe, effectivement.
Oui, effectivement. C'est Gus Niehaus. C'est son dernier emploi dans le baseball. Comme je le mentionnais, ce sont des circonstances qui sont particulières. Pour avoir parlé à quelques joueurs qui ont joué au sein de cette équipe-là. C'est une équipe qui est très, très jeune avec une organisation très jeune. Je regardais la rotation des partants, Daniel. Les expos ont repêché seulement à partir de 68 un petit peu, mais c'est 69 vraiment qui est la première année. Donc, il y a très peu de joueurs qui ont du vécu dans le baseball professionnel qui se retrouvent au niveau 2A. Donc, il y a un manque de profondeur au sein de l'organisation. Ça a paru surtout dans la deuxième moitié de cette première saison. Mais globalement, c'est un succès cette première année.
Oui, c'est un succès au niveau de la foule. Je pense que, beaucoup plus tard, 50 ans plus tard, on peut dire que la cédule de la Ligue Eastern n'est peut-être pas bien adaptée à la ville de Québec. Là, ou en tout cas, à cause de sa longueur, parce que la grande différence entre les capitales aujourd'hui et les carnavals de cette époque-là, on attirait, en tout cas certaines saisons, les carnavals ont attiré autant que les capitales, peut-être pas cette année, là, parce que là, c'est vraiment un grand succès cette année, mais en plus de soirées. Donc, les débuts de saison, le 12 avril ou autour d'eux, là, c'est pas nécessairement la meilleure soirée pour aller au stade à Québec, là, je veux dire. À l'ouverture, il y avait du monde. Le lendemain, il y en avait déjà pas mal moins. C'est peut-être le même phénomène qu'à Montréal aussi. Là, aux expos, la soirée d'ouverture, il y avait du monde, mais les semaines suivantes, c'est un petit peu moins. Là.
Je peux te dire, Daniel, pour avoir parlé à certains Floridiens qui ont joué à Québec pendant ces années-là, ils n'avaient jamais vécu quelque chose d'aussi froid dans leur vie.
On a vu de la neige à certaines soirées, là, je veux dire.
Oui, absolument. Bon, après la première année, on assiste à l'arrivée de Carl Kiehl. Et Carl Kiehl a quand même eu de bonnes saisons avec l'équipe. Il a été gérant des expos pendant une courte période. C'est un style qui n'était peut-être pas adapté au baseball majeur, mais il a quand même été là pour des années importantes de l'organisation.
Ben deux bonnes saisons. La première année, je vais peut-être mentionner juste trois noms là, qui finalement ressortiront un peu de plus tard. Là, c'est Pepe Frias, Pepe Mangual et Bambo Rivera étaient dans la première édition des Carnavals, qui eux, c'est des noms qu'on va retrouver dans l'histoire des expos et du baseball. Bambo Rivera va jouer ailleurs notamment, là. Même Pepe Frias aussi. Oui, Calquil arrive et bon, la première saison, on avait eu 64 victoires. On va en avoir 72 dans la deuxième saison. C'est quand même une progression intéressante. Et là, il y a des noms, plusieurs noms intéressants dans l'alignement aussi. Notamment Joe Gilbert, Barry Foot, Larry Lynch, Baylor Moore, Dale Murray, Tony Scott, Dan Wharton, Jerry White. C'est des noms que j'ai retenus là. Parce qu'au total, dans l'histoire des Carnaval Métro, il y a 50 joueurs qui atteindront les majeurs. Là. C'est quand même un bon succès là, pour les expos. Là. Parce que 50 sur 7 ans, là, c'est bien en tout cas pour atteindre les majeurs.
C'est un excellent ratio compte tenu qu'à cette époque-là, les joueurs qui... gravissaient les échelons un par un. Donc, ça veut dire passaient une saison complète au niveau 3A. C'était assez rare qu'on passait du niveau 2A au niveau majeur. Il y a Larry Parrish qui l'a fait. D'André Dawson, qui est un cas assez particulier, Daniel. Je ne sais pas si tu peux nous en parler. Là, en 75, on avait promis aux gens de Québec qu'André Dawson passerait la saison complète. En fait, c'est en 76. On avait promis aux dirigeants de l'équipe qu'André Dawson passerait la saison complète avec l'équipe.
Ouais, puis finalement, il a passé, il a joué 40 parties. Évidemment, Dawson a brûlé les étapes, là. Il a connu du succès partout. À Québec aussi, là, 40 parties, 8 coups de circuit, 27 points produits, 357 de moyenne. Évidemment, comme voltigeur, là, et,
Les plans ont changé avec son rendement, Daniel.
Là. Oui, c'est ça, c'est évidemment. Et peut-être aussi, en 76, c'était pas la meilleure année des expos non plus, là, évidemment.
Ouais.
Je pense qu'on cherchait des vedettes et on construisait autour d'un noyau de jeunes aussi, là. Bon, les bonnes années vont venir pas longtemps après ça, les bonnes années des expos.
Mais Daniel, ils sont tous passés par Québec, là. On parle des cinq, là, qui ont formé le cœur de l'équipe, c'est-à-dire les Carter, les trois voltigeurs, Dawson, Cromarty, Valentine, Larry Parrish, ils sont tous passés par Québec avec
Steve Rogers.
Steve Rogers est passé par Québec.
Rogers est passé par Québec aussi, évidemment. C'est l'autre génération, mais c'est les suivants, là, les Reigns, Galarraga, tout ça, eux autres n'ont pas passé par Québec. Mais oui, effectivement, ils sont tous passés par Québec. Dan Schottenberg aussi, des gens qui ont eu un peu moins de succès, mais des noms qui ont aussi servi à l'occasion pour des échanges. Je pense à Bill Atkinson qui est passé par Québec aussi. Donc, Tony Bernazard qui est passé par Québec à cette époque-là aussi. Là. Steve Radzer même. Il y en a plein. Larry Lynch, que je viens de mentionner, 96 buts volés à Québec.
C'est un record de la Ligue Eastern à l'époque.
C'est un record. On avait fait une promotion, il avait été arrêté par des policiers, évidemment, en blague, là, mais 96 buts volés avec une moyenne de 226. Il y avait eu 110 buts sur balle cette année-là.
Oui. Au cours de ces années, il y a eu un mariage sur le terrain.
Oui. Ed Creech, qui est marié de Mme Delaney, si je ne me trompe pas, là, en 73, c'est 73 ou 74, je pense que c'est 73. Ed Creech, qui a joué longtemps à Québec, qui était longtemps dans l'organisation des expos aussi. Je pense que tu l'as retrouvé, là, je sais qu'on a déjà parlé d'Ed Creech, là, avec les Giants, où il était dépisteur dans plusieurs organisations, je pense.
Il a gagné la Série mondiale avec les Giants.
Les Giants, OK.
Oui. Okay.
Mais oui, lui, bon, son succès avec son mariage était de courte durée, je pense. Là, il n'est plus avec la dame en question. Mais un autre qui s'est marié à Québec aussi, mais qui n'est pas au stade, parce que celui d'Ed Creech était effectivement sur le terrain, là, le mariage d'Ed Creech. Mais c'est Cromarty aussi, a marié une Québécoise purlaine, une Madame Ringuette.
Carole.
Bon. Et je sais qu'ils sont encore, bon, ils sont plus ensemble, les autres non plus, mais ils étaient en bon terme parce que j'ai recroisé Cromarty au stade, puis elle était présente, elle. Avec, il était avec sa belle-sœur, justement.
Ben, ils sont parents d'enfants, là. Ils ont eu des parents
ensemble. Ah, oui, oui, c'est ça.
Voilà. Voilà. Puis, écoute, ce ne sont pas les seuls qui ont fréquenté
les Québécoises. Québécoises
pendant cette période-là, Daniel, il faut quand même le dire. Là. Québec,
il y a des rumeurs qui circulent.
Mais Daniel, c'était un environnement quand même particulier. Pour la simple et bonne raison, tu regardes l'ensemble des villes qui composaient la Ligue Eastern et on peut dire la même chose aujourd'hui. Québec, ce n'est pas une ville typique de 2A. T'sais, c'est quand même une capitale d'une province, d'un territoire qui... C'est une grande ville en soi. Puis on ne se retrouve pas à Bristol ou à Waterbury.
Effectivement.
C'est une grande ville où les distractions peuvent être nombreuses. Là, tu te retrouves avec des jeunes de 20 ans, puis particulièrement, bon, je pense, les premières années, des Américains qui venaient, il y en a plusieurs qui étaient anxieux en raison de la guerre au Vietnam, il y en a plusieurs qui manquaient beaucoup de matchs en raison de ça. C'était particulier, il fallait les entourer, ces jeunes-là, et dans les premières années, peut-être que les expos, ils ont peut-être manqué à cet égard-là.
Absolument là-dessus, ben, c'est possible, c'est sûr que la présence des expos à Québec, je ne sais pas si c'était si importante que ça, c'est-à-dire la présence soit physique à l'occasionnel ou même les interactions avec... parce que les échos, ben là, la plupart sont décédés, évidemment, Hugues Baudouin est décédé, Georges Nolan, qui était directeur gérant les premières années aussi, est décédé. Mais en entrevue aussi, là, moi je suis pas journaliste, mais à discuter avec eux autres, c'était pas si présent que ça, disons. Je pense à Nolan qui c'était lui qui faisait plus la discipline ou qui essayait en fait de faire la discipline, peut-être parce qu'il parlait mieux anglais que Monsieur Baudouin aussi là. Mais il y avait on aurait, je pense, souhaité une présence plus importante de au moins un membre de la grande famille des expos là.
Oui, puis écoute, c'est à l'époque où il y avait le gérant et il n'y avait pas d'instructeur avec lui, donc c'est lui qui s'occupait de tout ce qui se passait sur le terrain.
Oui.
Bon, on a parlé de Carl Keel, Lance Nichols et Doc Edwards ont été des gérants également. Doc Edwards qui a été gérant dans le baseball majeur par la suite.
Oui,
c'est
ben oui.
Les dernières années de l'équipe.
Oui, c'est la dernière année, 1977. Mais là, on a changé de nom aussi en 1976 pour une raison qui est encore... En tout cas, partiellement obscur, je vais dire. Mais là aussi, je pense que les expos ont joué un rôle dans cette histoire-là de faillite, entre guillemets, de l'équipe des carnavals. Là aussi, il y a des rumeurs parce que c'est bon, pas accès aux livres non plus de ces gens-là. C'est quand même privé. Mais il y a des chèques qui n'arrivaient pas assez rapidement, peut-être, à Québec. Puis finalement, Monsieur Baudouin a fait faillite, ou en tout cas, l'équipe a fait faillite, peut-être pas Monsieur Baudouin personnellement, là, mais... C'est François Bonnetteau qui reprend la relève. Et là, il y a d'autres rumeurs par la suite que, bon oui, des chèques sont arrivés, mais on s'est envolé avec les chèques aussi. Là. Je dis ça sans accuser personne, mais c'est nébuleux autour de la transition entre carnaval et métro. Ça resterait à bien fouiller ça, disons.
Oui, ça s'est fait en plein milieu de la saison, hein, ce changement. Il faut bien le mentionner avec des... bon, une Ligue Eastern qui vivotait aussi, Daniel. Faut
aussi,
le mentionner,
effectivement.
Là, la Ligue Eastern n'avait plus beaucoup d'équipes à ce moment-là. Donc, c'est un contexte qui était difficile. En fait, de ce qu'on a lu, la concession la plus stable était probablement à Trois-Rivières à ce moment-là.
Oui, probablement. Ce serait intéressant, peut-être une suggestion. Monsieur Després, Yvon Després, ça serait peut-être quelqu'un d'intéressant à discuter avec, là, parce qu'il est toujours vivant. Ouais, puis,
on aura l'occasion de parler à l'historien du temps de la renommée du baseball.
Ah, aussi, ben oui, c'est monsieur McDuff, ça c'est Bob McDuff. Ouais. Ben oui, c'est ça. Mais la concession, elle est assez bien. C'est un peu comme aujourd'hui. Là. C'est nécessaire d'avoir ces deux équipes. Si Trois-Rivières partait de la Ligue frontière, est-ce que Québec resterait? Ben probablement, là, je veux dire, ça va quand même très bien. Ouais. Mais ça serait très différent. Et est-ce que ça allait si bien que ça à Trois-Rivières? Il y avait eu des bonnes années. Peut-être que 76, 77, c'était déjà différent. Là. Évidemment, les restes avaient beaucoup de succès, puis plusieurs joueurs étaient passés par Trois-Rivières.
Ouais.
Donc, on attirait... Mais si on le sait par la suite, par exemple, à Québec, si tu discutes avec des gens, ils vont tous te dire, ou à peu près, que Gary Carter était très impressionnant en 73. Je ne sais pas si à ce moment-là, mais c'est par la suite qu'on dit, oh oui, Carter était là en 73. Je pense qu'il y a eu une bonne saison, mais à ce moment-là, Carter n'était quand même pas encore une vedette non plus en 73.
Oui. En fait, en fouillant un peu, les deux meilleures saisons offensives de l'histoire des Carnaval Métro, c'était Warren Cromarty et Pepe Mangual. C'était les deux meilleures saisons. Et au Monticule, je pense qu'on peut parler de la saison de 20 victoires de Gerald Hannes.
Oui, c'est le premier de l'organisation des Expos, effectivement. Oui, puis avec une belle moyenne de points mérités en plus. Là, 2,39, 20 victoires, 6 défaites. Effectivement, c'est assez... Mais un autre, qui, je ne sais pas ce qui est arrivé, vous y avez peut-être parlé, ou tu y as peut-être parlé, Danny McSwain avait eu une très bonne année, en tout cas au chapitre de la moyenne de points mérités. 6 victoires, 6 défaites en 1974, mais 1,89, il avait dominé la Ligue, si je ne me trompe pas.
Il avait dominé la Ligue Eastern, c'était un dossier qui était très, très mal géré par les Expos. Ce gars-là n'aurait jamais dû recevoir un autre billet pour tourner à Québec. Là. Il méritait au moins d'aller dans le 3A. Et non seulement ça, mais en plus, compte tenu qu'il était québécois, il aurait dû, à mon sens, profiter d'un traitement de faveur de la haute organisation qui, comme tu le mentionnes, Daniel, avec une moyenne de points mérités semblable, il aurait dû graduer un peu plus haut. Danny McSwain, effectivement, là, qui a eu une saison de rêve avec les Carnavals de Québec. Donc, tu as parlé des fins de saison. On s'est rendu en série une fois.
74, je me trompe.
En 74, du côté des Carnavals de Québec, en l'espace de 7 ans, comme on le mentionnait, c'était une jeune organisation. Ça prend 5 ans habituellement avant de mettre sur pied, tu sais, tout notre réseau de filiales. 5 ans à partir de la première année. Tu te retrouves en 1974. Donc, c'est pas un hasard. C'est à peu près ces années-là où on a fait des séries. On a été plus compétitifs, là. Cette année-là, est-ce qu'on peut dire que c'était une année spéciale, là? C'est vraiment été la meilleure édition de l'histoire des Carnavals Métro, là?
En chiffres, non, c'est pas, en nombre de victoires, c'est pas la meilleure année. En 76, il y en a deux de plus, mais je veux dire, ça, regarde, deux, c'est probablement la meilleure année au niveau des joueurs, par exemple.
Oui, avec ceux qui s'en viennent.
C'est ça, le Atkinson, Cromarty, et là, Terry Humphrey, qui à l'époque était un espoir, là, évidemment, ça n'a pas été un grand succès. La Parrish, Valentine. Plodinek aussi, là, c'est un nom qu'on a oublié, mais 14 victoires, 5 défaites cette année-là. Là, je veux dire, bon, c'est et Danny McSwain aussi. Et probablement quelques autres là, que j'ai pas pris en note parce qu'ils revenaient de l'année précédente aussi. Là. Mais oui, c'est. Mais je voudrais dire un mot sur l'année 73 et sur Carl Keel que tu as nommé. J'ai entendu les commentaires très positifs de Gary Carter. J'ai eu l'occasion d'aller à un événement public, là, évidemment, à Cooperstown, sur les receveurs. Carter était un des trois receveurs invités. Et à Cooperstown, il n'était pas à Québec, a parlé de Carl Keel et de sa bonne influence de l'année 73 à Québec qu'il y a eu de Carl Keel pour apprendre le métier de receveur, parce qu'on oublie parfois que Carter n'était pas un receveur quand il était... Pêcher, t'es plutôt un joueur d'avant-champ, là, qui a appris beaucoup, et il l'a mentionné à Cooperstown, et ça m'avait frappé parce qu'il était pas à Québec. Quand il est venu à Québec en 1999, faire une promotion pour les Capitales, bon, c'est sûr qu'on parle toujours plus en bien dans la ville où on est, là, mais là, en étant à Cooperstown, ça m'avait frappé, là. Il savait pas qu'il y avait nécessairement du monde de Québec qui était présent cette journée-là, là. Et je me suis dit, puis Carl Keel, qui n'était pas un ancien receveur, et en a parlé bien pour au niveau de l'apprentissage que Keel lui a apporté.
Oui, il travaillait beaucoup, Carl Keel. Il travaillait sur plusieurs aspects. Il y a même un livre sur l'aspect mental là, du baseball qui a été co-écrit là, par Carl Keel. Dernière année, 77. Comme je le mentionnais, il n'y a pas juste les carnavals, c'est une ligue qui vivotait, même qu'il y avait un risque que la ligue au complet tombe. C'est terminé pour les carnavals de Québec, là, la filiale qui déménage à Memphis. Il y a Trois-Rivières qui quittent en même temps, donc tout ça est arrivé en même temps. Est-ce que c'était un départ annoncé là, du côté des carnavals de Québec, là, compte tenu de... peut-être que la fièvre du baseball, je ne sais pas, est-ce que tu es en mesure de
Pas si bien. Là, je vais te raconter plus. Ben, raconter, ça va être plus une. Parce qu'en 77, pour me dire mon âge, là, c'est la fin de mon adolescence, je suis né à 59. Là, donc, j'allais au carnaval. Effectivement, il y avait moins d'engouement à ce moment-là. En tout cas, mais j'étais trop jeune aussi pour peut-être bien saisir l'ensemble du portrait du baseball.
Mais il y avait moins d'engouement, ça c'était clair. Là.
Non, c'était clair, effectivement, c'était clair. Avril et septembre, ces deux mois, je reviens à mon histoire de la cédule. Avril et septembre, c'est deux mois difficiles pour le baseball. Aujourd'hui, on termine à mi-septembre. Là. Les séries vont se faire... les Capitales terminent dimanche prochain, là, le 1er septembre, et les séries vont être terminées le 15 à peu près. Là. Donc, puis là, en série, déjà, on attire plus de monde, en tout cas. Les grands succès des carnavals, c'est au niveau des promotions. Carnaval métro, c'est au niveau des promotions. Il y a eu du monde au stade là, à certains moments. 7000 spectateurs à coupe d'occasion, là, ce qu'on voit plus aujourd'hui. Là. Mais dans l'ensemble, c'est ça. Là, on était baissé à des moyennes en bas de 2000 par match là, en dernier. Est-ce que c'était généralisé parce qu'on avait perdu Sherbrooke, on avait perdu Thetford Mines, évidemment qu'il y avait des problèmes. Bon, pour Rivière, je ne sais pas si ça allait si bien que ça aussi. Comme tu dis, la Ligue aussi. Je pense que c'était plutôt généralisé à ce moment-là. Peut-être dans le baseball mineur au complet aussi. Là, il y aurait un portrait à regarder comme il faut. Là. Mais je reviens à l'intérêt des expos. Puis tu l'as dit avec Denis McSwain. Ils n'ont peut-être pas fait tous les efforts non plus pour que ça perdure au Québec, le baseball. Peut-être. En tout cas, ça serait analysé comme il faut. Là. Mais c'est pas en les blâmant 30 ans plus tard ou 40 ans plus tard. Là, mais c'est une constatation là, plutôt. Là, de dire,
C'est un passage marquant quand même, Daniel. Tu l'as mentionné, là, il y a plusieurs joueurs là, qui, bon, la grosse période de l'histoire des expos, faut pas se leurrer, là, ça a commencé en 79 jusqu'en 83-84. Et ceux qui ont formé le noyau de cette belle équipe, une équipe dynamique avec laquelle on s'identifiait, ben, ces joueurs-là sont passés par Québec. Et,
oui.
Ils sont passés par Québec. Et pour plusieurs, ben, c'était leur premier contact avec la culture de la province, avec, bon, l'aspect francophone. Avec un milieu qui était complètement différent de leur. Ce qui les a préparés, je pense, à ce qui les attendait à Montréal.
Oui. Puis moi, ce qui serait intéressant de regarder, puis ça, on pourrait peut-être avoir les chiffres avec Baseball Québec, l'impact d'avoir eu les carnavals métro de 71-77 et les aigles à Trois-Rivières aussi, on va se voir plus tard, là, justement. L'impact chez les expos, c'est peut-être 79-84. Oui. Quelqu'un qui a écrit un livre là-dessus. Je pense aussi. Là, ouais. L'impact, c'est les années 80. Mais je pense sur les inscriptions dans le baseball mineur au Québec, ben, peut-être que ça serait intéressant de voir les chiffres des années 80 parce que je pense que le départ, on le voit par la suite, là, beaucoup plus tard avec le départ des expos, il y a un impact, c'est ça. Là. Oui, il y a l'arrivée du soccer, on peut toujours parler de ça. Mais l'intérêt, c'était de développer au Québec pour le baseball en général, parce qu'on était impliqué ailleurs, pas juste à Montréal, justement. Là. Et c'est malheureux, justement, c'est le départ en 77 ou la fin du baseball mineur organisé en 77. Je pense que ça va suivre là, jusqu'à dans les années 90. Puis là, 90, ça sera pas les meilleures années, justement, du baseball mineur au Québec. Évidemment, il y a la concurrence.
Oui. Ben écoute, on est content de savoir que le baseball professionnel se porte très, très bien à Québec en ce moment, là, avec bon, Michel Laplante à la tête, Patrice Calabrini, oui. Là, qui mène cette équipe sur le terrain de main de maître. L'organisation, en fait, je pense, qui a fait son nom et ce qui fait en sorte que des joueurs de qualité veulent aller à Québec maintenant.
Et revenir,
Le recrutement est beaucoup plus facile et compte tenu de la qualité des joueurs du Québec là, qui s'en vont jouer dans des universités américaines, ben ça leur donne une voix pour ceux qui veulent continuer là, à jouer au baseball.
Effectivement, un des grands succès. Excuse, c'est un des grands succès des Capitales, là, le baseball francophone aussi, chez les francophones. Là,
absolument.
C'est pas juste les championnats, c'est faire du baseball en français, c'est maintenant possible. Et continuer sa carrière un peu plus longtemps, mais c'est maintenant possible dans un environnement intéressant, effectivement.
Ouais. Daniel Papillon, merci beaucoup de ton temps. C'est très apprécié de nous faire revenir un petit peu dans le passé. Bon, tu parlais de ton âge un peu, je suis un peu plus jeune que toi, mais j'ai bien vécu mon adolescence avec les expos de la fin des années 70, début 80, puis il y avait un petit peu des carnavals des métros de Québec dans cette équipe.
Ben oui, c'est sûr.
Faut quand même le dire. Merci beaucoup, Daniel Papillon.
Merci l'invitation. À une prochaine. Au revoir.